RFI 8h30, à Paris 7h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et Nemo Ampis pour le journal. L'unité des 27 de l'Union Européenne face à la situation dans l'Est de la RDC.
Et c'est une première. Après avoir convoqué l'ambassadeur rwandais, Bruxelles a condamné le soutien du Rwanda au M23 et demandé le retrait de ses troupes du territoire congolais. Pendant ce temps, de nombreuses chancelleries continuent d'appeler au dialogue inclusif, un scénario toujours écarté par Félix Tshisekedi, le président congolais en passe de changer d'avis. On s'interroge dans ce journal. Une transition qui essaie de supprimer d'un trait tous les progrès accomplis en matière de démocratie. Les mots ce matin d'Aliountine, spécialiste des droits humains au Sahel après les assises nationales au Niger. Désormais, elle refuse de se taire. Les prostituées malgaches ont élevé la voix hier dans la capitale pour dénoncer leurs conditions de travail et les violences auxquelles elles sont confrontées. Et puis des supporters chauffés à blanc, peu nombreux certes, mais survoltés à Rabat pour les qualifications de l'Afrobasket. Une pression internationale de plus en plus forte sur le Rwanda, la pression européenne notamment. L'UE a convoqué l'ambassadeur rwandais à Bruxelles et a, pour la première fois, affiché une unité sur le dossier de l'Est de la République démocratique du Congo. Correspondance dans la capitale belge de Pierre Benazé.
Il est demandé au gouvernement rwandais, je cite, de retirer toutes les troupes présentes sur le territoire congolais et de cesser de soutenir le M23 ou tout autre groupe armé en République démocratique du Congo. Voilà le message sans détour intimé à l'ambassadeur rwandais à Bruxelles ce vendredi. L'Union condamne les atteintes à l'intégrité territoriale de la RDC et l'offensive en cours, qui est, je cite, une violation du cessez-le-feu décidé par le processus de Luanda. L'ambassadeur en Allemagne avait été convoqué la veille et la conjonction de ces deux événements montre que les 27 ont désormais une posture commune, alors que jusqu'ici, la proposition de la Belgique d'édicter des sanctions avait suscité des réticences. Le Rwanda a d'ailleurs essayé d'isoler la Belgique de ses partenaires européens. Le coup a échoué car les autres donateurs d'aide au développement réfléchissent désormais à l'utiliser comme, je cite, levier, selon un diplomate européen. Suède, Allemagne et Pays-Bas ont été cités. Dans le même temps, les ambassadeurs des 27 à Bruxelles préparent des sanctions individuelles proposées par la France et la Belgique, envisagent une suspension du dialogue politique et de sécurité, voire des restrictions à l'accord UE-Rwanda sur les matières premières. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Autre condamnation, cette fois celle du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a adopté à l'unanimité une résolution. Elle est arrivée au bout de la 4e réunion d'urgence du Conseil en un mois sur le sujet. Elle condamne clairement Kigali pour son soutien au M23 et demande également le retrait de ses troupes du territoire congolais. Pas de sanctions pour le moment. Alors que le représentant congolais s'est félicité de cette position, regrettant tout de même une certaine lenteur, le représentant rwandais a lui dit prendre note de la résolution et évoquer des pressions exercées sur les pays africains siégeant au Conseil de sécurité. Sachez qu'hier soir également, le président William Ruto s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui a demandé un cessez-le-feu immédiat dans la région. Le président kényan et le chef de la diplomatie américaine qui affirme qu'il n'y a pas de solution militaire et qui appelle à un retour du dialogue. Une solution également plébiscitée par les chancelleries de la sous-région, c'est le cas de Luanda, de Nairobi, de Brazzaville ou encore de Pretoria. Et c'est ce que défendent aussi les églises catholiques et protestantes du pays, la CENCO et le CC, qui poursuivent leurs consultations en vue d'un pacte social pour la paix. Elles étaient hier à Lubumbashi, dans le sud-est du pays. Ce dialogue inclusif avec tous les acteurs du pays, donc, avec le groupe armé M23 également. Le président Félix Tshisekedi l'a toujours refusé, mais pourrait-il changer d'avis à l'avenir? Élément de réponse avec Patient Ligodi.
Officiellement, Félix Tshisekedi campe sur sa position. Pas question d'accepter un dialogue direct avec la FCM23. Mais en coulisses, sa position ne serait pas aussi inflexible, selon plusieurs sources proches du président. Ces derniers jours, il a reçu plusieurs alliés politiques qui l'ont encouragé à envisager un cadre de dialogue plus inclusif. S'il doit y avoir un dialogue, ce ne serait pas dans une situation où nous sommes à genoux, confie un proche du chef de l'État qui précise un certain équilibre doit d'abord être établi. Pour y parvenir, Kinshasa mise sur des renforts, des nouvelles troupes étrangères pour être déployées. Félix Tshisekedi resserre également ses liens avec les forces engagées sur le terrain. Il échange directement avec certaines unités et a ordonné des mesures pour améliorer la logistique et le ravitaillement. Pendant ce temps, sur le plan politique, en dépit des réticences de l'UDPS, certains de ses alliés de l'Union sacrée plaident en coulisses pour l'ouverture d'un dialogue. Selon plusieurs sources, le chef de l'État suit également de près l'initiative portée par l'Église catholique et les protestants.
Patient Ligaudy, un point sur le terrain une semaine après la prise de Bukavu par le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Hier, c'est bien plus au sud de la capitale du Sud Kivu que des affrontements ont eu lieu aux alentours de Minembwe où la FRDC et leurs alliés ont lancé une offensive contre un groupe d'autodéfense dont le chef Michel Rukunda a été tué ce mercredi par une frappe de drone. Prolongement de la transition pour une durée de 5 ans, amnistie pour les militaires à l'origine du coup d'État et du renversement de Mohamed Bazoum, ou encore promotion au grade de général d'armée 5 étoiles pour le chef de l'État Abdourahmane Tiani. Voilà, au Niger, trois des nombreuses propositions adoptées à l'issue des assises nationales refermées jeudi, des assises pour la refondation du pays, dit-on à Niamey. Des propositions qui vont dans le sens contraire du développement du pays. C'est en tout cas ce que nous dit ce matin Aliou Ntine, expert sur la situation des droits humains au Sahel. On l'écoute.
Moi, je suis extrêmement préoccupé par cette nouvelle situation au Niger. C'est une transition qui essaye de reporter, d'invalider, de supprimer carrément d'un trait tous les progrès qui ont été accomplis depuis les années 90 en matière de démocratie, de respect d'état de droit et de stabilité d'un pays comme le Niger. Quand aujourd'hui, au terme de ce débat, on supprime tous les partis politiques au Niger, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que c'est instauré une dictature sans nuance. On attendait effectivement que l'on soigne, que l'on répare une démocratie abîmée. On n'attendait pas vraiment une dictature qui va vraiment consolider le règne de la force et de l'arbitraire. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour des dissidents politiques ou de la société civile de vivre au Niger, de s'exprimer et de travailler. C'est des signes qui sont annonciateurs d'instabilité politique au Niger.
Aliou Ntine, expert sur la situation des droits humains au Sahel avec Wely Diallo. Et au lendemain de la fin de ces assises nationales, le pipeline nigérien qui conduit le brut vers le port de Semekpoji au Bénin a une nouvelle fois été attaqué à sabotage par des hommes armés à hauteur du village de Kamré dans le département de Douchi. En Guinée, toujours en bref, le Parlement a désormais sa propre chaîne télévision appelée Parlement TV. Elle a été inaugurée hier vendredi au Palais du Peuple à Conakry. C'est une première dans ce pays dirigé depuis fin 2021 par une junte militaire qui a renversé l'ancien président Alpha Condé. Et puis au Sénégal, Ousmane Sonko s'est prêté au jeu des questions-réponses devant l'Assemblée nationale. Une séance qui s'est tendue à l'évocation du rapport de la Cour des comptes publié la semaine dernière et mettant en cause la gestion des finances publiques par le régime sortant de Macky Sall. Elles ne veulent plus se terrer dans le silence. Hier, lors d'un festival consacré aux droits des femmes à Antananarive, les travailleuses du sexe de la capitale malgache ont pris la parole en public, chose particulièrement rare, pour dénoncer leurs conditions de travail, mais aussi les violences auxquelles elles sont régulièrement exposées. La prostitution n'est pas interdite sur la grande île, mais le métier est méprisé, en premier lieu par les clients, à l'heure où, d'année en année, il devient pour de nombreuses femmes, des mères célibataires pour beaucoup, un ultime recours. Reportage à Antananarive de Pauline Le Troquier.
Il fait l'amour avec moi, il ne paye pas. Tu dis, où est l'argent? Non, ce ne donne pas de l'argent à toi. Il frappe fort.
Sa nuit de travail vient de se terminer aux environs d'Analakel, au cœur de la capitale. Nana, 40 ans, a commencé à se prostituer sur les trottoirs de la ville à l'âge de 16 ans. Elle se souvient avoir basculé dans l'enfer certaines nuits et là, de n'avoir jamais été protégée.
Les clients, ils travaillent au ministère, la police, les gendarmes, oui. Et pourtant, c'est eux qui ne nous protègent pas. Le gérant de l'hôtel, il soutient le client.
Eliane a 46 ans. Elle se prostitue chaque semaine dans un hôtel de l'hypercentre. 20 000 arrières la passe, soit 4 euros minimum. Ce qui la pousse à continuer. La même situation de précarité qui l'a conduite pour la première fois dans la rue.
En plus de mes enfants, j'ai 9 frères et sœurs encore à ma charge. On veut juste vivre, même si pour le moment, ça passe par subir ces violences, qui ont même coûté la vie à certaines.
Le mouvement AFSA mène un plaidoyer actif auprès des autorités pour mieux encadrer les professionnels du sexe, estimés à 170 000 sur l'île. Mais la priorité, estime Rebecca, l'une de ses membres et ancienne prostituée, reste encore de gagner l'empathie de la société.
À Madagascar, il faut faire connaître aux gens qu'on se prostitue pas pour le plaisir. Elles n'ont pas le choix. Avant tout, ce sont des personnes. mais pas des objets.
Pendant la pandémie de Covid-19, le pays a vu naître une prostitution de survie, poussant même des femmes de la campagne à s'installer en ville où ce marché est porteur. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Du sport pour refermer ce journal, juste avant de retrouver Victor Missistrano. La suite des qualifications de l'Afrobasket. La seconde partie a débuté hier et dure tout le week-end à Antananarive, à Tripoli, mais aussi à Rabat, la capitale marocaine où les supporters sont déchaînés. Ils sont certes peu nombreux, mais donnent bel et bien de la voix et du cœur pour soutenir leurs équipes nationales. C'est un reportage de Cédric Ralfi.
Principalement issus des diasporas installées au Maroc, les spectateurs des qualifications de l'Afrobasket s'époumonnent à encourager leurs équipes. Osman est malien et il est très optimiste pour son équipe nationale.
Si on continue comme ça, donc Inch'Allah, on va emporter le coup, Inch'Allah.
Marie, elle est rwandaise et elle est surtout venue pour l'ambiance.
C'est un truc à voir, on est en train de s'amuser.
D'autres spectateurs comme Morbassi Nyong sont plus attentifs. Ce journaliste au quotidien sénégalais record décrypte d'ores et déjà les différentes stratégies des qualifications.
Je pense que l'équipe rwandaise s'est un peu trompée dans sa stratégie. Les Rwandais ont donné tout ce qu'ils avaient parce qu'ils devaient au moins gagner un de leurs trois matchs, oubliant que le Sénégal était déjà qualifié avec la victoire du Cameroun.
Moins au fait des stratégies, Fabrice est congolais. Il vit les matchs à fond. Depuis les tribunes, il fait des grands gestes et donne ses instructions aux joueurs.
Je me suis égosillé à leur dire. Le but était de les fatiguer dans les deux premiers cartons et dans les deux derniers, tac, contre-attaquer très, très durement.
Après la victoire de la RDC sur le Mali, Fabrice, notre entraîneur virtuel, est aux anges et il est sûr de lui.
La prochaine victime... Le Maroc.
Cédric Ralfi, Rabat, RFI.
Et les sports.